Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Florian Gazan.
Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur RTL pour On refait le match. Bonsoir à tous et buenas tardes, Léo Messi, si tu nous écoutes, car oui, c'est l'info qui affole le monde du foot. Le sextuple ballon d'or pourrait rejoindre le PSG, on en parlera bien évidemment. Ce week-end, la Ligue 1 revient et du coup, ben, l'un ne va pas sans l'autre. On refait le match aussi. Au moins là c'est clair, c'est pas amour, gloire et droit télé. La Ligue 1, vous la suivez tous les samedis et dimanche chez nous. Et puis dans RTL Foot à partir de 20h. À noter qu'à 17h, pour le compte de cette première journée, l'OL affrontait Brest. Score final un partout. Pareil pour la Ligue 2, vous la suivrez sur RTL. La troisième journée, déjà, oui, a débuté cet après-midi avec la défaite à domicile du leader Caen. 1-2 face à Sochaux. C'est poursuivant. Le Paris FC, Auxerre et Toulouse jouent depuis quelques secondes. On suivra cela en fil rouge avec Baptiste Durieux qui en plus relaiera vos messages sur la page Facebook et Twitter RTL Foot et participera en plus à nos débats. Ah bah ça, il a pas fait le voyage pour rien, comme disait Thierry Roland. Bonsoir Baptiste, ça va bien?
Salut Florian, bonsoir à tous.
Vous n'êtes pas seul évidemment pour ce premier On refait le match de la saison. Baptiste, ils sont trois à avoir quitté les claquettes avec ou sans chaussettes pour rechausser les crampons de la discussion. Si vous vouliez partir cet été en Amérique du Sud mais que vous n'avez pas pu à cause du Covid, pas grave, vous fermez les yeux, vous écoutez sa voix, c'est pareil et ça va vous économiser un billet d'avion. Cindy Colmenares, bonsoir.
Buenas tardes a todos.
Ça va bien?
Ça va, j'étais dans la mer des Caraïbes il y a quelques heures.
Ah bah dites donc, ça se voit, elle est bien bronzée. Il connaît le foot et son histoire comme sa poche, même si dans un short de foot, ben il n'y a pas de poche. Dommage, ce serait bien pratique pour mettre les mains dedans, ça éviterait des pénaltys sifflés et confirmés par la VAR. Xavier Barret, bonsoir.
Salut Florian, bonsoir à tous.
Ça va bien?
Ça va, impeccable.
Et puis, attendez, pour lui, l'essentiel, c'est pas les trois points, mais le point, vu que c'est son journal, c'est un petit nouveau. Florent Baracco, bonsoir.
Bonsoir, Florian.
Et bienvenue dans On refait le match. Alors, vous êtes nouveau, normalement, au football, on bisute.
Non, il a été stagiaire à France Foot.
Oui, d'accord, mais enfin, dans l'émission. Ah, ça, il nous fait Wikipédia. Vous nous chantez un petit quelque chose, façon football, ou on évite?
On va éviter. J'aurais pu chanter du Michel Sardou, mais il a peu chanté le foot.
Ouais, c'est vrai. Et salut à Thibaut Cobel, le réalisateur de l'émission. Vous êtes fan de Michel Sardou?
Okay, tout à fait.
Non, je note. Vous êtes bien sur RTL et nous aussi, et on y est bien avec vous.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h, on va donc évoquer cette nouvelle saison de Ligue 1, inaugurée hier soir avec le nul un partout de Monaco contre Nantes. Passe sanitaire et passe décisive, c'est un petit peu le slogan de notre championnat en ce mois d'août, avec le retour du public, ça fait plaisir. Nouvelle saison et forcément nouvelle question. Le PSG est-il obligatoirement favori avec son recrutement galactique? Lille, qui a remporté le trophée des champions dimanche dernier contre Paris, peut-il faire un bis répétititre et gagner à nouveau la Ligue 1? L'OM version Sampaoli et l'OL version Peter Boss sont-ils plus que des outsiders? Quelle sera l'équipe surprise de cette saison et l'équipe déception? Mais avant cela, évidemment, on va offrir On refait le match par Léo Messi. Ça semble incroyable, irréel, mais pourtant, le meilleur joueur du monde pourrait jouer la saison prochaine en rouge et bleu. Pas le rouge et bleu du Barça, mais celui du Paris Saint-Germain. Messi à Paris, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? C'est la première question un poil provocante, je l'avoue, que je vous poserai dans un petit instant. A tout de suite pour On refait le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, Xavier Barret, Florent Baracco et Baptiste Durieux qui surveillent cette journée de Ligue 2. Dès qu'il y a un but, vous nous le direz, mon cher Baptiste. Je sais pas comment vous allez faire ce soir. Vous avez plusieurs yeux, comment ça se passe?
Je pense que oui, je suis obligé. Il y a 1-0 pour Toulouse face à Pau pour l'instant. Formidable.
Ça commence fort. Depuis leur arrivée en 2011, les dirigeants du PSG, vous le savez, affichent la couleur, rêvaient plus grand à coup de transfert XXL. On a eu Zlatan, Neymar, Mbappé. Cet été déjà, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, le gardien champion d'Europe. Mais là, il serait sur le point de faire le transfert ultime, Lionel Messi. Alors qu'il devait re-signer avec le seul club de sa carrière, le Barça, tout a capoté au dernier moment jeudi et le PSG est bien parti pour en profiter. Alors c'est pas le marché aux puces, mais le marché à la puce, la pulga, le surnom de Messi. L'Argentin serait ok pour venir. Son papa et agent discuteraient actuellement avec les dirigeants parisiens. On parle d'un contrat de 2 saisons, une en option et 40 millions par an. Le président Nasser El Khelaifi disait qu'il rêvait d'avoir un jour le futur Ballon d'Or. Bah, il va peut-être être exaucé puisque Messi le sera sans doute à nouveau cette année. Et pour la 7e fois, alors Messi à Paris, bon je précise, là on va beaucoup parler au conditionnel, donc conjugaison des temps. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord?
Alors, c'est la première fois qu'on pourra voir Messi et Sergio Ramos, si jamais ça s'est fait, jouer ensemble. Pas sur FIFA, mais ouais. au Paris Saint-Germain, c'est quand même assez incroyable. Et c'est d'ailleurs les frères de l'émir du Qatar qui a publié cela sur les réseaux sociaux, c'était sur Twitter, avec une photo des deux joueurs en les annonçant. Donc comme quoi, les choses, elles ont l'air effectivement de ralentir, mais ça serait sur une bonne façon de commencer. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue un peu, c'est que je me dis, au niveau du marketing, c'est certes une excellente idée. Après, on va encore dans cette estalisation qu'on critique tellement en France, mais il est vrai qu'en ces moments, il y a la Coupe du Monde du Qatar qui arrive à grands pas, c'est en 2022, et c'est une très 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 belle opération pour les PSG et pour les Qatars d'avoir une star comme Messi pour faire briller aussi, pas que les PSG, mais éventuellement les Qatars et la Coupe du Monde.
Quel enthousiasme, vous le partagez ?
Bien sûr, mais là, on est bien au-dessus du football, ça dépasse largement le rectangle vert, cette opération. On est effectivement dans une opération de politique internationale. Aujourd'hui, le Qatar a les moyens de s'offrir le meilleur joueur du monde, sextuple ballon d'or, que Barcelone ne peut plus payer, et donc il vient à Paris, parce que Paris, voilà, c'est la ville lumière, c'est là où le club de l'avenir, ça répond à tout ce qu'ils ont mis en place depuis 10 ans maintenant. On veut être la référence. Le PSG est une vitrine de la politique, du soft power du Qatar. Et donc, Messi, à ce moment-là, il rentre parfaitement dans le plan. Ils en rêvaient sans trop y croire. La situation économique à Barcelone leur offre sur un plateau. Ils ne vont pas se priver de le prendre.
Décidément, ils auront fait quand même beaucoup de mal à Barcelone. Mine de rien, la remontada leur coûte cher.
Avec Neymar aussi, ils l'ont déjà pris. Divorces avec Messi, dis donc, des 20 ans des mariages.
Oui, oubliez pas non plus qu'ils étaient sponsors du Barça pendant longtemps. Et puis qu'ils ont décidé d'arrêter Qatar Airways il y a 2 ans maintenant. Et le Barça se retrouvait sans sponsor. Et c'est Gérard Piqué qui, avec l'aide de sa femme,
Shakira
la Colombienne, ouais, est allé récupérer le contrat Rakuten au Japon. Donc, sinon, ils avaient même plus de sponsor. Donc, c'est dire que le Qatar a effectivement un pouvoir énorme sur le monde du football via sa puissance économique.
Moi, je trouve qu'on parle beaucoup de marketing, de relations internationales, mais on parle peu de sport. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'est-ce que ça va apporter.
C'est pas une émission de sport du tout ici.
Non, mais qu'est-ce que ça va apporter sportivement ? Enfin, il me semble pas que le problème du PSG c'était l'attaque.
Ils étaient
déjà assez bien. Ils avaient beaucoup de membres avec Mbappé, avec Neymar, avec Di Maria. Et là, on rajoute une pièce. On a l'impression que Nasser, il joue à Football Manager et il met plein de milieux offensifs, d'attaquants. Moi, je trouve le problème, c'est qu'on parle beaucoup de marketing et d'économie, pas de sport depuis 2 jours, depuis que le rêve Messi est en train de se réaliser.
Mais on va en parler, Florent, parce qu'évidemment, on va se projeter, on va faire nous aussi du Football Manager, on va imaginer ce que pourrait devenir le PSG avec Messi. Mais justement, Messi qui vient à Paris, est-ce que c'est pas un peu par défaut? Parce que bon, on l'a dit, le Barça ne pouvait pas se le payer. Manchester City, apparemment, veut garder toutes ses pépettes pour acheter Harry Kane. Est-ce que vraiment Messi vient à Paris parce qu'il a envie de venir ou parce que finalement, il n'a pas le choix?
Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix du tout, parce que Paris, c'est le seul club qui est capable d'assumer financièrement un tel transfert. Je pense que le seul truc qui satisfait Messi aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer avec Neymar, parce que ça, leur amitié, elle est sincère, elle est solide, et elle est tout à fait transparente. Mais sinon, j'ai pas envie de dire qu'il vient par défaut, mais presque. Il voulait rester à Barcelone. L'information, c'est qu'il voulait rester à Barcelone. Barcelone voulait qu'il reste, évidemment.
Il avait fait des gros sacrifices. Hein. Il avait accepté de baisser son salaire.
En fait, 50%. La situation était bonne.
C'était très conséquent. Et donc là, effectivement, il faut bien se rappeler que Messi vient presque que pour des mauvaises raisons, parce que c'est le seul club qui est capable de lui payer le salaire qu'il souhaitait.
Je n'irai pas si loin que ça. Moi, j'ai dit qu'en fait, évidemment, la situation s'est un peu arrangée avec le nouveau président, avec Messi, la bonne relation entre eux. Donc, effectivement, il voulait rester. Après, il y aura, et c'est justement les risques au PSG, des petits clans. Messi s'entend très bien avec Paredes, avec Di Maria, avec Neymar. Bon, ça va sans dire.
Ouais, on a vu la photo sur Instagram. Ils étaient à Ibiza cette semaine, tous ensemble.
En fait, pour moi,
Covid cet été.
Mais il est vrai que si vous m'avez dit il y a quelques semaines, enfin plutôt quelques mois, parce qu'il y a à peu près 3 semaines ça a commencé déjà à s'entendre, mais il y a quelques mois que Messi venait au PSG, je vous aurais dit mais Messi il va finir au Barça et au pire il ira à Newell's, enfin au mieux il ira à Newell's en Argentine et puis il fera peut-être un passage par les MLS, d'ailleurs c'était compris dans ses deals avec les Barça, et puis voilà, mais je n'aurais pas cru au PSG, mais c'est aussi la capacité de ces clubs, c'est indéniable, les PSG a cette capacité à surprendre et envoyer vraiment du lourd, parce que là c'est quand même Messi
après,
qu'ils arrivent à avoir.
Il n'a jamais fait un blocage sur le PSG non plus.
Non.
Il a toujours privilégié Barcelone parce qu'il y a vécu oui. depuis ses 13 ans, qu'il y a grandi, qu'il y a une très belle maison, que ses enfants y sont mmh. heureux. Vous souvenez-vous ce qu'il avait raconté à l'interview qu'il avait donnée il y a un an, je ne sais plus quelle télévision espagnole, en disant quand je suis rentré chez moi, quand il est allé au bras de fer brièvement avec la direction du Barça, et quand il est rentré chez lui, ses enfants pleuraient. Il a dit on quitte Barcelone, ses enfants pleuraient. Donc lui, il était prêt à venir à Paris. D'ailleurs, il vient régulièrement à Paris. Il aime beaucoup venir à Paris avec Antonella, son épouse, parce qu'il aime la vie parisienne. Il aime
les Sud-Américains, les femmes sud-américaines, on adore Paris. C'est un élément hyper important.
Il y a une différence entre aimer Paris, la ville de Paris, et vouloir jouer au Paris Saint-Germain. Il y a une nuance quand même entre
les deux. Non, vous ne vous trompez pas. Hein. Parfois, les femmes des jeux, hein, je peux vous les dire pour l'avoir discuté avec certaines, elles peuvent imposer les choix de vivre sur Paris et que les joueurs jouent ici.
Bien sûr, s'il a le choix entre Paris et Manchester, il n'y a pas de doute, Antonella, elle préférera venir à Paris.
Ah bah surtout que, oui, dit Marielle, dirait que Manchester, en termes de climat, c'est pas terrible.
Oui, mais
il faudrait peut-être retrouver Guardiola à Manchester City.
C'est l'autre défi, mais est-ce qu'à 34 ans, elle a envie encore de courir et de faire les efforts comme les exige Guardiola? Ça, j'en suis pas certain. D'ailleurs, visiblement, Manchester City est pas du tout dans le match pour récupérer.
Ils l'ont dit, hein, il l'a dit Guardiola en conférence de presse cette semaine. Après, c'est pas parce qu'on dit un truc que ça se passera pas. Mais ceci dit, justement, parlons un petit peu du sportif. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir gagné cet été cette Copa América, la première de sa carrière, qui est importante avec lui, finalement, ça a réveillé un petit peu un instinct de compétiteur qui dit bon, j'ai encore peut-être une ou deux années dans les pattes, autant aller dans un club où je peux encore gagner des choses.
Oui, mais non. En fait, c'est vrai que c'est ce qui manquait forcément à Messi. C'était la Copa América ou en tout cas un trophée international avec son équipe nationale. C'était très important pour lui. Certes, ça l'a un peu donné, je suppose, influé quelque chose. Mais est-ce qu'il vient des bases qui ne va pas du tout? C'est les contrats qui étaient proposés par les Barça où on propose 5, c'était 5, 6 ans, 8 ans, je ne sais plus. Un contrat assez long en s'imaginant qu'à 39 ans, Messi, il va pouvoir encore être au niveau. Enfin, c'était déjà des bases ce qu'il a proposé comme contrat les Barça. Ça n'allait
il
pas.
Il l'avait accepté.
Du tout. Mais ça n'allait
pas. Il l'avait accepté.
Mais ça n'allait pas.
Il était prêt à le signer quand il revient là d'Argentine, quand son père débarque, ils sont prêts à le signer le contrat. Et ils tombent des nues quand effectivement Laporta leur dit ben, en fait, on ne peut pas payer.
Mais sportivement, c'est illogique. Enfin, on est bien d'accord que, évidemment, c'est tout Messi qu'il est. À 39 ans, on ne peut pas s'imaginer à quel niveau il va être ces joueurs-là. Enfin, c'est quand même assez.
Oui, mais l'envie de faire redevenir le Barça comme un grand club qui n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis des années, je pense que c'est un défi sportif important pour Messi, c'est quand même son club. Il le laisse sur deux éliminations catastrophiques contre le Bayern 8-2 et l'année dernière contre le PSG.
Mais beaucoup plus. La remontée contre Liverpool, quand ils prennent la remontada contre l'AS Roma, ça fait des années que le Barça se fait humilier chaque saison avec Lionel Messi sur le terrain.
Ou tout simplement, son dernier match, c'est à Camp Nou vide. En fait, on pourrait s'arrêter là. C'est pas, je le voyais pas sortir du Barça. Comme ça. Après, c'est pas évidemment sa faute, c'est la situation du Covid, ok, on en est là, mais j'imaginais vraiment Messi partir avec les Camp Nou plein à craquer, en train de l'adouber.
Cindy a raison, parce que moi je vais même faire un parallèle avec Cristiano Ronaldo, qui est aussi parti de Madrid dans des circonstances qui n'étaient pas vraiment positives. Là, Messi, c'est terrible, c'est-à-dire que le dossier est évacué avec une vidéo hommage sur les réseaux sociaux, et puis lui ligne dans un communiqué. On parle du plus grand joueur, peut-être, de l'histoire du football.
Après, il reviendra, je pense. Il y a
une conférence de presse demain. À midi au Camp Nou de Lionel Messi, où il va sans doute donner sa version de son départ, parce que tout le monde va vouloir faire porter le chapeau à l'autre. Messi, évidemment, a envie de dire que lui voulait absolument rester et être catalan à vie, et en l'occurrence, il le sera sans doute plus. D'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui était compliqué pour lui, parce que Messi, on l'a dit, c'est l'homme d'un seul club, ça va être compliqué, ça va être difficile pour lui, hein, finalement.
Moi, je trouve que Griezmann a raison.
C'est un vrai défi, ça. En fait.
Sur un post sur les réseaux sociaux, Griezmann, il dit ça sera toujours ta maison. Évidemment, c'est très communication. Tu reviendras dans ta maison, dans ton club. Et moi, je pense que Messi pourrait être amené à après revenir à son club de toujours, avant de retourner en Argentine, je le pense aussi, mais revenir dans un autre rôle, peut-être pas en tant que joueur, mais vraiment pour contribuer à ces clubs auxquels il a tellement contribué.
Cindy fait beaucoup de politique, de football fiction quand même, parce que s'il part là à 34
j'ai
ans...
J'ai bien rêvé.
Oui, à 34 ans, qu'il part pour jouer au PSG pendant deux saisons pour préparer la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine, et qu'ensuite il va en MLS, quand il reviendra...
Ah, j'ai pas parlé
Barça,
de MLS, moi.
Oui, si, tu en as parlé tout à l'heure.
Non.
Quand il reviendra quand il reviendra au Barça, il aura 50 ans, donc il jouera plus, oui, hein, ça c'est sûr.
Non, mais pas en tant que...
Il aura toute sa maison, il va la mettre sur
mais
Airbnb.
Pas en tant que joueur, pas en tant que joueur, mais tu sais très bien que parfois il arrive qu'il y ait des joueurs qui reviennent, pas dans les rôles des joueurs, mais pour contribuer dans l'équipe. Ça peut être un peu un encadrement, ce genre
alors,
de choses.
Alors là, justement,
je pense que c'est un homme intelligent.
Tous les grands joueurs ne deviennent pas entraîneurs, d'abord.
Mais pas en tant qu'entraîneur non plus, tu peux l'avoir en tant que...
C'est très rarement
le cas. C'est rarement, d'ailleurs, les bons entraîneurs ont rarement été de grands joueurs. À part Cruyff et Beckenbauer, c'est très rare.
Souvent, ce sont des...
Parce que être entraîneur, ça demande énormément de travail, ça demande des journées à rallonge, et donc il faut être très tôt au centre d'entraînement, il faut y être très tard pour assurer le service après-vente auprès des médias notamment, et donc c'est des journées à rallonge que les joueurs très talentueux qui ont besoin de moins travailler que les autres n'ont pas l'habitude de faire.
Et pourquoi tu penses à entraîneur? Tout simplement. Il y a tellement de postes et puis des façons de contribuer
mais
au
même
club.
Directeur sportif, un bon directeur sportif qu'ils n'ont pas eu à Barcelone pendant des années, c'est vrai. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup
mais
de travail.
Mais
Xavier soulève quelque chose de très intéressant parce que moi, dans la personnalité de Messi, dans sa personnalité, pas en tant que joueur, il a été décisif un milliard de fois, mais je ne sens pas un leader incontestable, incontesté que les gens vont écouter. Moi, plein de fois, j'ai vu Messi baisser les bras alors que son équipe avait besoin de lui. Je n'ai pas vu prendre la parole comme peut le faire, par exemple, Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos. Et justement, cette venue au Paris Saint-Germain me fait vraiment peur parce que c'est un joueur qui fait plus le repli défensif et c'est un joueur qui n'a pas un impact psychologique sur le terrain.
Ah, ça, c'est les sportifs avec les autres joueurs.
Mais ça, c'est justement aussi.
Ça me fait peur.
On va parler un petit peu de sportif parce que Florent me regarde. parlons sportif. Voilà, on va parler sportif. C'est vrai quand même que. Admettons que Messi arrive au Paris Saint-Germain, c'est vrai quand même que globalement, il va falloir gérer cette histoire. On va avoir une attaque de PlayStation. Ok, Messi, Mbappé, Neymar, mais trois joueurs dans le vocabulaire duquel le mot repli défensif n'existe pas trop. Donc est-ce que sportivement c'est pas dangereux de recruter Messi parce qu'il sera forcément titulaire, ça c'est évident. Est-ce que ça va pas être des nuits cauchemardesques pour Pochettino?
Pour la Ligue 1, ça suffira. Ils ont l'habitude déjà de jouer avec Neymar, Mbappé et Icardi, qui lui restera pas pour d'autres raisons, mais sans ce repli, qui se replie pas, et de défendre à 4 ou 5. Donc bon, ça suffit pour la Ligue 1, même si l'an dernier ils ont perdu le titre.
Xavier, vous en avez pas marre de dire ça fait 10 ans qu'on dit ça suffira pour la Ligue 1. Moi j'en ai marre de sortir cette lapalissade tout le temps. C'est insupportable. Moi, j'aimerais une équipe.
Vous n'allez pas vous battre.
Attendez, moi, je vais au Parc des Princes à tous les matchs du PSG. Je peux vous dire que quand c'est pas plié, effectivement, une année, il y a Lille ou une année, il y a Monaco qui vient les piéger. Mais sinon, les matchs sont pliés au bout d'une demi-heure et on est content quand il y a match nul à la mi-temps parce qu'on dit qu'il va y avoir moins match en deuxième mi-temps.
La saison dernière avec Losc qui gagne.
Oui,
mais
c'est ce que je dis, ça arrive
tous les 5 ans.
Ouais, c'est depuis 10 ans que le Qatar est en poste au PSG. Mis à part la première saison, effectivement, Montpellier leur a fait le baptême du bisu, et ben derrière ils ont perdu que deux fois, ils ont laissé filer le titre contre Monaco qui avait une énorme équipe et contre Lille la saison dernière.
Non mais c'est
sinon,
pas le sens de mon propos. C'est-à-dire que ça suffira pour la Ligue 1. Moi j'aimerais qu'on voit plus loin que ça. J'aimerais que Paris bâtisse un effectif et pas que un effectif, bâtisse un club qui est vraiment capable dans sa structure, dans sa hiérarchie décisionnelle, dans sa pyramide, etc. Puisse encadrer les joueurs, qu'on recrute pas des stars, mais que les joueurs soient ciblés, soient précis, que le directeur sportif travaille la main dans la main avec l'entraîneur. Moi, c'est ça qui me fait rêver, c'est ça qui m'excite en fait. Mais c'est pas la venue de Messi.
Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a recruté Sergio Ramos, qui fait un très bon gardien de vestiaire, hein?
Ouais, mais le problème, mais dans les vestiaires, est-ce qu'on gagne des matchs dans les vestiaires? Enfin, c'est
toujours
pareil.
Bien sûr.
Parce que bon, il joue 25 matchs. L'an dernier, il a joué, je crois, 25 matchs par saison. Il est déjà blessé. Enfin, les recrutements de 35 ans, de gens qui pouvent, enfin, les pattes du PSG, ça suffit, quoi. Avec Buffon, on a vu avec Beckham.
Sergio Ramos, il a vraiment des quoi encore à porter. Ne le mets pas au même niveau qu'un Buffon, qui vraiment était là pour les marketing, pour l'aider à évoluer.
Il a raison, Florent, parce qu'il a été donc en stage à France Foot quand j'y étais. Donc,
c'est pas possible.
Mais c'est vous qu'il faut à Paris, Xavier.
les jeunes, ouais. Surtout ceux qui visent des places de titulaire, un gars comme Kimpembe, vous faites une charnière Marquinhos-Sergio Ramos, donc il se retrouve sur le banc. Si Sergio Ramos, il n'est pas au niveau, Kimpembe, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, attendez, moi je suis champion du monde, je suis international français, il est titulaire maintenant en équipe de France, il a pris la place d'Umtiti, et il se retrouve sur le banc au PSG, lui qui a été formé au club, parce qu'on a recruté Sergio Ramos à 35 ans.
Et qui a fait des bons
matchs
au PSG aussi.
Et qui a fait des bons matchs. C'est vachement touchy à gérer cette situation. Donc Sergio Ramos, effectivement, il a intérêt à être très bon pour justifier sa place. Tout Sergio Ramos qu'il est.
Bah, pour l'instant, il ne sera pas très grand-chose, qu'il est blessé au mollet, donc il ne jouera pas ce soir à 3. C'est dommage, j'aurais découvert le stade de l'Aube. Il ne jouera pas à 21h avec le Paris Saint-Germain. En revanche, il y en a un qui jouera peut-être ce soir, c'est Kylian Mbappé. On va en parler dans un petit instant parce que l'arrivée de Messi, est-ce que finalement c'est une si bonne nouvelle que ça pour lui et pour la prolongation du Paris Saint-Germain? Mais me spoilez pas, mais qu'est-ce qu'on s'est dit? On se retrouve dans un petit instant pour On fait le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h, toujours avec Cindy Colmenares qui spoil, Xavier Barré, Florent Paraco et Baptiste Durieux. On continue un petit peu de parler de Messi. Dans un instant, on évoquera quand même cette nouvelle saison de Ligue 1 avec les équipes qui sont peut-être là pour le titre ou pas. Mais on va continuer sur Messi et sur Kylian Mbappé. On sait que l'objectif numéro 1 du PSG avant même Messi, c'est de prolonger notre kiki national qui refuse toujours de le faire. Alors, est-ce que la signature de l'Argentin peut le faire changer d'avis? Demander des garanties sportives. Là, franchement, à part Cristiano Ronaldo et Pogba, qu'est-ce qu'on peut lui mettre de plus dans les bras?
Lewandowski.
Lewandowski. Non mais, très bien. Alors, on va faire une cagnotte litchi parce que ça commence à gagner un peu d'argent.
Blague à part, moi, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire, je pense que pour lui, effectivement, la perspective de jouer avec Messi un an et de remporter éventuellement la Ligue des Champions avec Paris, c'est quelque chose qui l'intéresse.
Mais qui l'intéresse. Mais, ouais, pourquoi pas.
Mais Mbappé, je pense que non seulement il veut partir, mais je pense surtout que ça fait 2 ans qu'il veut partir. Et justement, la problématique de Messi, c'est qu'il ne sera plus fatalement le leader de cette équipe et le symbole de ce projet-là. Et c'est pour ça qu'Mbappé veut aller à Madrid. C'est-à-dire que là-bas, ce sera le seul, le plus talentueux, le meilleur joueur de cette équipe, sans faire offense à Karim Benzema. Et Mbappé, ce qui l'intéresse, c'est pas de jouer avec des stars, c'est d'être dans un grand club, avec tout ce que ça signifie, avec une structure, je l'évoquais tout à l'heure, avec un projet sportif, avec une histoire, avec 13 Ligues des Champions dans la vitrine. C'est ça qui intéresse Mbappé. Il a pas envie d'être dans un projet politique, je pense, le projet du PSG. Enfin,
excusez-moi, cher Baptiste, je m'inscris en faux. Kylian Mbappé, c'est un jeune homme qui m'a l'air assez pressé. Lui, il veut gagner tout de suite. Ouais. Est-ce qu'en allant au Real Madrid, où il serait effectivement la grande superstar, mais avec une équipe qui nécessitera beaucoup de retouches pour devenir très compétitive.
C'est le Real Madrid,
est-ce qu'il va pas, oui, mais est-ce qu'il va pas perdre 2 ans? Est-ce que l'intérêt pour lui, c'est pas de se dire, là, je suis dans un PSG quand même qui est lancé pleine balle avec des gros joueurs, et peut-être que j'ai plus de chances de gagner aujourd'hui à Paris qu'à Madrid.
Mais les projecteurs seront plus sur lui, hein. Au PSG, ils seront sur Messi. Si Messi arrive au PSG, il y aura Messi, Neymar, Mbappé. Mbappé, il fera partie des trois. Il sera plus le seul qui peut emmener une équipe en Ligue des Champions, en demi-finale ou en finale de la Ligue des Champions. Il y a aussi ce côté d'ego qui va compter. Et puis on va peut-être lui demander de faire plus d'efforts puisque Messi sera dispensé d'efforts, de repli défensif, puisque Xavier a dit qu'il était même plus prêt à faire des courses à haute intensité. On a hâte que ça commence. Hein. Neymar, il fait ce qu'il veut. Donc on va peut-être demander à Mbappé de travailler plus, de faire plus de replis. Est-ce qu'il va accepter ça?
Ça, c'est comment enterrer Mbappé? Vous avez la solution là. Les lumières sont pas sur toi, puis en plus tu vas défendre parce que Neymar et Messi, tu comprends, faut qu'ils se reposent. Là, c'est Mbappé, voilà, il part demain, il fait ses valises.
En fait, les soucis, c'est que Mbappé, et c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, il risque de se retrouver isolé. En fait, au sein de ces PSG, avec des stars, on lui demande des choses. On sait aussi que Mbappé, c'est pas, il attend pas les projets, il attend aussi être les premiers salaires, c'est une question d'ego. Il attend la prime, il peut partir libre. Seule chose qui les freine, c'est ses transferts au Real Madrid qui peut être très compliqué parce que Florentino Pérez, vous le savez bien, il a d'autres intérêts liés aussi au Qatar. La vie, ce n'est pas que des football. Il a aussi des sociétés dans la construction, ACS, dans les bétons, les bâtiments. Donc, tout ça, ça vient rentrer là dans ses business, sinon ça serait peut-être déjà fait en fait, Mbappé au Real Madrid, mais ça peut pas se faire parce qu'ils vont pas venir, vous savez, il y a collision d'intérêts là-dedans.
Il a encore un an de contrat, Paris peut décider de le garder cette dernière saison, ce qui est parti pour
et
être le cas.
Et lui peut décider de partir libre aussi, enfin, en fait il a un peu les cartes en main, Mbappé. Moi, ce qui m'inquiète de toute façon, c'est ce qu'on disait depuis les débuts pour parler du sportif, c'est qu'il y a un peu trop des joueurs offensif, on se demande, ils vont falloir en tout cas qu'il se libère de certains, on se demande ce qui va devenir Sarabia et puis tant d'autres.
Et Di Maria
par exemple.
Di Maria,
il va rester tout à fait.
C'est un vrai joueur de Champions League. Hein.
Enfin, Di Maria, déjà, il accompagnera Messi à l'entraînement, lui montrera le chemin parce qu'il ne connaît pas.
Oui, ils s'entendent très bien.
Il y a des gens qui coûtent moins cher qui peuvent le faire.
Hein, Icardi, par contre, là, tout à l'heure, je vous entendais dire, Icardi, il partira. Certes, je sais qu'il a des difficultés à s'entendre avec Messi, on n'expliquera pas les dessous de l'affaire.
C'est tout simplement Vandanara, la compagne de Icardi, est l'ex du meilleur ami de Messi.
Et donc Icardi, Maxi Lopez, c'est ça.
Voilà. Messi a jamais pardonné à Icardi d'avoir piqué la femme de son pote. Donc voilà, c'est tout. Donc du coup, il peut pas. Mais c'est connu comme le loup blanc. Pourquoi Icardi n'était pas en équipe d'Argentine? Parce que voilà, Messi n'a.
Non, ça c'est des rumeurs. Là, on en est pas sûr, mais c'est connu.
Donc en plus. plus, il y a eu des histoires avec la garde des enfants et tout. Donc,
l'entourage.
Bon,
donc,
j'ai adoré ce moment, Press People. Franchement.
Non, il faut dire aux auditeurs qui aiment le foot que la raison de la mise à l'écart attendue d'Icardi, elle est extra-sportive.
Ah non, mais nous, on l'a pas dit. Moi, je veux pas dormir tout dans ces émissions.
Non, mais on a du pouvoir.
Si Messi vient, c'est sûr qu'Icardi dégage.
Non, pas forcément. En fait, il peut aussi faire forcing rester. Si on entend l'entourage d'Icardi, Icardi, il reste en fait. Il s'était en train un peu de sonder l'Italie, la Juve, etc. Mais ils ne bougeront pas. Donc
mais
en fait,
ils vont
là,
le traiter gracieusement n'importe où pour qu'il ne reste pas dans le vestiaire avec Messi.
En tout cas, ça va être intéressant le feuilleton des coups de pied arrêtés hein, avec Messi.
J'allais vous le dire. Alors, qui va faire les coups francs, les pénaux? Parce que là, on a quand même trois joueurs à stats sur le terrain. On a trois joueurs qui veulent le ballon d'or, trois joueurs qui vont compter chaque but, chaque passe décisive. Ça risque d'être compliqué. Pochettino va falloir qu'il achète un Martinet, je pense, pour faire régner l'ordre. Ça va être très compliqué.
Après, je m'ai dit que Neymar, il s'entend tellement bien avec Mbappé que peut-être il va pouvoir jouer un rôle. Neymar, il est un peu pour moi les liens entre
grand,
Messi
le grand Mbappé. Frère, Pascal le grand frère.
Non, mais l'intermédiaire au moins. Mais c'est vrai qu'avec le prisme de ce qui s'est passé en équipe de France, avec la venue de Benzema qui nous a tous enchantés, et d'ailleurs il a fait un très bon euro, ça a rompu absolument tous les équilibres. Est-ce que la venue de Messi va pas aussi rompre les équilibres à ce niveau-là? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une certaine alchimie. On sait que c'est le cas entre Neymar et Messi. On sait que c'est le cas entre Mbappé et Neymar. Mais les mecs, ça reste des joueurs de foot qui ont besoin de stats, qui où on parlait de l'ego, c'est extrêmement important. Donc il n'y a aucune garantie que ça fonctionne et que ce soit mer calme et ciel bleu. Quoi.
Bon, déjà il n'y a aucune garantie que ça arrive, parce qu'encore une fois on parle au conditionnel. C'est vrai que Messi se rapproche, mais quand il se rapproche, il n'est pas à Poitiers. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de discuter doucettement entre son papa agent et le Paris Saint-Germain. Et demain, donc, cette conférence de presse de Lionel Messi à midi, on en saura sans doute un petit peu plus sur les raisons de son départ au Barça. Je vous propose quand même qu'on retrouve notre bonne vieille Ligue 1, parce qu'elle nous a manqué. Même. Elle est de retour, la Ligue 1. Ça a repris hier soir avec ce Monaco-Nantes 1-1 partout. Et puis, on va avoir cette première journée ce week-end. On a eu là tout à l'heure Lyon qui s'est fait accrocher par Brest. Et puis ce soir, donc le PSG qui joue à 3. Et demain, le reste de la journée. La première question sur cette Ligue 1, elle est simple. Le PSG avec ou sans Messi, commence-t-il la saison en étant déjà futur champion de France?
Non.
Ah si.
Oui.
Non. Chaque année.
Alors, attendez.
Après, les choses arrivent.
Alors, Baptiste, vous avez répondu. Vous êtes décroché en premier, donc c'est vous.
La première journée, c'est ce soir. Le premier match de Paris, c'est ce soir. Face à 3, quand vous regardez le groupe, avec tous les absents, non, Paris ne part pas complètement favori. Ça ne va pas être une autoroute. Encore une fois, Ramos n'est toujours pas là. On n'a aucune idée des futures blessures à venir. Parce que moi, j'ai envie de savoir combien de matchs en tout, si Messi vient au Paris Saint-Germain, on verra avec Neymar, Messi et Mbappé. Ça, c'est une question. Moi, je trouve, par exemple, on en reparlera après, cher Florian, je trouve que Monaco, par exemple, est un outsider et en tout cas un peut-être futur deuxième ou futur champion plus sérieux. Moi, j'ai pas envie de m'avancer sur le Paris Saint-Germain.
Oui, oui. Ils ont été très bons la saison dernière. Enfin, je suis complètement d'accord.
Je vous parlais sur la saison, hein, pas sur le match de 3. Hein.
Non, bien sûr.
Mais vous oubliez une chose, c'est que le PSG en cours de saison a changé d'entraîneur. Que Tourelle a été mis de côté, enfin même a été viré hein, le 26 décembre.
Il doit en être très content d'ailleurs au final.
Ouais, et qu'il est allé à Chelsea, qu'il a gagné la Ligue des Champions, bref, et qu'on a mis Pochettino, et que Pochettino est arrivé, il a fallu qu'il s'installe, qu'il trouve ses marques, ça a pris un peu de temps, et ils ne sont pas champions parce qu'ils perdent le match au sommet contre Lille au Parc, 0-1 effectivement. Ça se joue à... Bon, effectivement, Lille est une saison formidable, mais ils étaient vraiment à 120%, et le PSG perd sur ce match-là. Le titre, même s'il concède 8 défaites et que de toute façon, ça aurait été pas un champion formidable. Mais voilà, sinon ils auraient été champions. Donc oui, cette année, ils vont l'être forcément parce que Baptiste Durieux dit oui, il n'y a pas Sergio Ramos, il n'y a pas Neymar, il y a Mbappé là ce soir.
Non, mais je parlais plus de la saison.
L'an dernier, ils perdent effectivement les deux premiers matchs contre Lens et Marseille. Mais derrière, ils déroulent. Bon, après, ils ont quelques accros, mais c'est pas très grave, parce qu'ils ont un effectif pour faire face à ça. Quand Alex Ferguson a voulu gagner la Ligue des Champions avec Manchester United dans les années 90, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il me faut deux équipes. C'était une révolution à l'époque en Angleterre. Il me faut deux équipes, une pour jouer la Ligue des Champions et une pour jouer le championnat, la Première Ligue. Et effectivement, au bout d'un certain temps, il a réussi. Donc le PSG, il a un effectif pléthorique. Actuellement, ils sont en train de prêter les joueurs sur lesquels Pochettino ne compte pas, mais il va lui en rester plein et il fera tourner. Et justement,
pour même faire une troisième équipe pour la Coupe de France.
Bien sûr. C'est dommage qu'il n'y ait plus la Coupe de la Ligue.
Non, mais on ne voudrait pas une plaie encore béante.
Pour faire jouer la troisième équipe.
Mais si en Coupe de France. France.
Mais non, il mettra une clause anti-Coupe de France.
Mais c'est génial. Mais attendez, moi j'adore la Coupe de France. C'est là qu'on voit les vrais championnats français, les belles histoires. Pourquoi vous êtes comme ça avec
les beaux terrains?
Non, mais après ils vont se blesser.
C'est pas qu'on aime le foot, Cindy. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi je parlais surtout du début de saison qui allait être un peu compliqué. Après, oui, Paris se détachera assez naturellement. Et d'ailleurs, effectivement, Lille a été champion, mais c'est surtout Paris qui ne l'a pas été la saison dernière. Faut être honnête.
On va parler des autres équipes. Alors, Monaco, justement, est-ce que pour vous, c'est l'outsider numéro 1 cette saison en Ligue 1? Est-ce que c'est l'équipe qui peut le plus embêter Paris, sachant que c'est quand même une équipe qui a été formidable sur le début de l'année 2021? C'est même la meilleure équipe de Ligue 1 en 2021. Mm-hmm. Est-ce que finalement, comme il n'y a pas eu beaucoup de changements à Monaco cet été, à part l'arrivée de Nubel, le numéro 2 du Bayern, le gardien qui vient dans les cages, finalement, l'effectif est assez stable. Ça nous change. On est tout surpris, parce que dans Monaco, d'habitude, il y avait 27 achats, 37 ventes. Et là cette année, il y a un cadre assez stable. Ouais.
Oui, vas-y.
Oui, je pense que c'est l'outsider numéro 1 de la Ligue 1, hein, enfin du PSG, parce qu'ils ont donc enlevé le compte qui était quand même un peu catastrophique au début de la saison, qui a coûté beaucoup de points à Monaco. Donc ils ont Nubel, ils ont Jean Lucas, ils ont gardé tout leur effectif avec la doublette volante Ben Yedder. Ils ont un entraîneur qui a trouvé enfin la formule magique. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas tout près du PSG, même s'il va y avoir la Ligue des Champions, et c'est un groupe l'an dernier qui ne jouait qu'un match par saison.
Oui, avec un entraîneur très exigeant
pour
qui
moi,
demande
c'est pas,
beaucoup
c'est pas
de
la formule
physique.
Magique pour moi, c'est qu'ils ont trouvé un excellent entraîneur exigeant. Je suis fan de cet entraîneur.
Il s'est fait virer du Bayern quand même, Niko Kovac, hein.
Oui, mais comme Flick qui avait tout gagné avec lui, être viré du Bayern aujourd'hui,
Flick,
c'est presque un palmarès.
C'est pas pareil.
Non, mais vraiment, pour les Monaco, ça marche très très bien avec ses coachs. En plus, ils sont plus dans ces trucs de refouler les caisses, de vraiment remplir les caisses, mais vraiment de faire une équipe. Donc je pense qu'ils vont continuer constant par rapport à ce qu'ils ont réussi cette saison. Je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi que l'OL, par exemple, je suis ravie qu'ils se soient fait accrocher maintenant, parce que ça va leur donner aussi envie de se bouger.
Ils doivent être ravis aussi,
peu.
Je pense. Ils tablent là-dessus.
Mais vous verrez, ça va leur donner, ils sont les coachs qu'il faut, ça va leur donner envie de se bouger un petit peu pour les mercato, donc ils vont être là en pleine analyse.
Ils n'ont pas d'argent,
on a
Cindy.
Des joueurs. Non, mais c'est pas, c'est
mais
pas
Lyon
autant.
Lyon n'a pas d'argent, ils n'ont pas de mécènes.
On va en parler
c'est
Lyon.
C'est pas juste une question.
On va parler Lyon, on fera les deux
postes.
Olympiques. Je voudrais qu'on finisse sur Monaco. Finalement, on ne change pas une équipe qui a presque gagné. Globalement, ils seront là, quoi.
Mais la seule chose, Florent Baracco l'a très bien dit, c'est qu'ils n'étaient pas européens la saison dernière. Cette année, ils veulent jouer la Ligue des Champions. On saura s'ils éliminent le Sparta de Prague la semaine prochaine, ça devrait être fait.
Ils
ont gagné à l'aller. Et puis ensuite, ce sera le Shakhtar Donetsk, ce sera
plus
peut-être plus difficile.
Là,
mais s'ils vont en Ligue des Champions, cet automne, ils auront les poules et on sait que ça va leur prendre beaucoup d'énergie.
Mais attention.
Et donc, du coup, Monaco qui joue sur les deux tableaux avec la même efficacité qu'au printemps où ils jouaient que la Ligue 1, je ne suis pas convaincu.
Ils avaient eu des difficultés d'ailleurs en faire Coupe de France Ligue 1.
Il y a beaucoup de joueurs aussi qui adorent le très haut niveau. Et le très haut niveau, c'est quoi? C'est jouer deux matchs par semaine. Il y a des joueurs pour qui c'est plus facile d'enchaîner comme ça, parce que du coup, les entraînements sont un peu plus tranquilles. Donc, c'est
surtout, on s'entraîne moins.
Exactement. Et surtout, on s'entraîne moins. Non, moi, ce que j'aime beaucoup à Monaco, effectivement, c'est la structure de ce club.
Quel joueur a cette expérience d'avoir joué sur les deux tableaux pendant longtemps?
Ah, mais aucun.
Ah, bah voilà. Donc, moi, je pense que vous voyez Monaco un peu trop beau.
À part Fabregas, malheureusement, qui est plus trop fort.
Qui attaque quoi, sa 19e saison, je crois, professionnel.
Exactement. Et son 19e sprint aussi de la saison.
Folland, il l'a peut-être fait une fois avec Hoffenheim, mais bon, ça va pas marquer les esprits. Ben Yedder, un petit bout avec Séville, mais bon, c'est des joueurs qui n'ont pas une grosse expérience de la Ligue des Champions.
Mais belles, cette équipe. Et moi ce que j'adore, c'est qu'il y a une structure qui est extrêmement claire avec Paul Mitchell, directeur sportif, l'entraîneur Niko Kovac qui décide de tout. Il travaille vraiment main dans la main. Il y a Myron Boidu aussi, super joueur de l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas, qui est une pépite absolue. Ils l'ont payé assez cher d'ailleurs.
Oui, il s'est un peu foiré hier soir.
Mais ce qui est bien à Monaco, c'est qu'il y a une ossature qui est clair, qui est dessiné. Ce qui manque juste à Monaco, et on l'a vu d'ailleurs vendredi contre Nantes, c'est un défenseur central. Et je pense qu'ils attendent cette qualification potentielle en Ligue des Champions pour attirer un nom un peu plus sympa sur le papier, parce que c'est tout ce qui manque à cette équipe pour qu'elle soit parfaite.
Vous aimez bien Baptiste Kansekere, c'est un peu allemand vous d'origine.
Non, il veut faire plaisir à Eric Silvestro.
Si on pouvait parler aussi c'est vrai, qu'on retrouvera à 20h pour RTL Foot, on va parler aussi du champion en titre, hein, le LOSC, hein, qui débute demain à Metz. Les Dogs ont perdu seulement trois éléments majeurs, finalement leur coach Christophe Galtier, leur gardien international Mike Maignan et leur milieu sous-marin pour l'instant, car le mercato n'est pas fini du côté de Lille. Les Lillois ont quand même remporté le trophée des champions. Bon, c'était un PSG bis, mais c'était le PSG quand même. Est-ce qu'ils peuvent faire un bis repetita? Est-ce que vous les voyez même sur le podium, vous, les Lillois, cette saison?
Moi, pas du tout, parce que ça leur est déjà arrivé au cours de ces 10 dernières saisons, puisque c'est quand même le seul seul club qui, au cours des 20 dernières années, a réussi à être deux fois champion et qui n'est pas Lyon et qui n'est pas le PSG. C'est quand même pas mal.
Avec Rudy Garcia,
voilà,
la première fois.
Avec Rudy Garcia en 2011. Mais chaque fois, les années d'après, ils ont eu beaucoup de mal à jouer à fond sur les deux tableaux. En Ligue des Champions, ils sont arrivés en huitième de finale et c'était au début des années 2000. Depuis, ils sont jamais sortis des poules. Donc, là, en plus, bon, vous dites, ils ont perdu que trois joueurs pour le moment parce qu'on sait que le
club. Ils sont déjà avant.
Ah, jusqu'au 31 août, les supporters lillois, ils vont faire les fesses.
Là, il y a Luis Araujo qui vient de partir. En
oui,
plus à Atlanta United
aux États-Unis.
Donc je pense que l'équipe, ça va être compliqué de mener les deux tableaux de front, de jouer sur les deux tableaux.
Et puis Florian, vous parlez des podiums et on a oublié quand même, on a déjà cité Monaco qui à mon avis pourrait se retrouver sur les podiums. L'OM, on n'en a pas parlé pour l'instant.
On va en parler de l'OM.
Si
il sait qu'il y a Florian qui va parler des Olympiques. Cette émission est travaillée, si c'est pas parce que hier j'étais en train de siroter du rosé, j'ai pas bossé. Hein, attention.
Avec modération.
Avec modération et avec mes amis. Donc, restons sur Lille. Il y a quand même un truc qui est assez étonnant sur Lille. Ça fait partie des équipes qui ont un nouveau coach. Hein. Il y en a 13 cette saison en Ligue 1. Je crois que c'est un record. Bon, c'est Jocelyn Gourvennec. On attendait Ranieri, on attendait Laurent Blanc. C'est Jocelyn Gourvennec. Alors, sans vouloir manquer de respect, est-ce que c'est pas un choix qui traduit un petit peu un manque d'ambition ?
Bien sûr. Mais c'est pas un manque d'ambition, c'est un choix qui est réaliste. C'est-à-dire qu'ils ont pris la personne qui voulait bien venir. C'est aussi simple que ça. Je pense que les entraîneurs sont pas fous. Vous parliez de Ranieri, qui a évidemment un palmarès un peu plus étoffé, un CV un peu plus sympathique que celui de Gourvennec. C'est impossible qu'ils viennent dans une équipe qui vient d'être championne de France et qui s'apprête à être complètement décimée. Et puis, je pense que le changement de direction, le changement de propriétaire, c'est pas quelque chose qui attire les entraîneurs. Donc, ils ont pris simplement la personne qui voulait bien venir.
Et puis ils savent que c'est difficile à recruter. Ça va être difficile en tout cas pour les LOSC d'avoir des bons joueurs. Donc l'entraîneur est effectivement attiré par un projet sportif. Donc je pense que c'est pas forcément un choix par dépit. On va pas. Enfin, on respecte tout le monde, mais
enfin,
voilà.
C'est quand même terrible. Ils sont champions de France. Ils vont jouer à la Ligue des Champions.
Oui,
qu'ils vont perdre tous les joueurs. Donc il faut que quelqu'un qui n'a pas des garanties sur l'effectif qui va jouer la Ligue des Champions, on prend celui qui est le moins affamé, quoi, qui va dire oui, moi je vais peut-être reconstruire cette équipe de bric et de broc parce qu'ils
vont perdre quand même du monde.
Ouais, mais ils ont 140 millions d'euros de dette. Donc ils vont devoir vendre comme des fous. Hein.
Mais il reste quand même du monde, la colonne vertébrale est là. Et puis il y a une petite recrue qui s'appelle Amadou Onana, capitaine des espoirs belges.
Alors, ils ont recruté deux Onana à Lille cette saison.
Exactement.
Figurez-vous. Je sais pas, ils font peut-être une collection.
Ouais, peut-être. Qui est un milieu de terrain belge, qui a 19 ans, capitaine des espoirs, gros milieu de terrain. Je pense que c'est clairement un remplacement numérique de Soumaré. Donc, moi, ça m'a assez étonné ce recrutement. Je trouve ça plutôt ambitieux de la part d'Olivier Létang et du directeur sportif. Je trouve ça même très, très bien.
Gourvennec, pardon, il reste quand même sur un passage à Bordeaux, qui était un club supérieur à Guingamp. Ça s'est pas très bien fini. Moi, je suis assez inquiet pour lui.
Il y a surtout deux années de chômage, quoi. Ça veut tout dire. Dans le football aujourd'hui quand même.
Bon, très bien. Bah écoutez, dans un instant, pour faire plaisir à Cindy, on parlera des deux Olympiques, le Lyonnais et celui de Marseille.
Merci.
À Lyon, on a perdu Memphis Depay, mais on a gagné Peter Bosch, l'ancien coach de l'Ajax. À Marseille, on a renouvelé l'effectif en profondeur pour donner une équipe sur mesure à Jorge Sampaoli. Quel Olympique réalisera selon vous la meilleure saison ? Eh bien, on va en parler dans un petit instant dans On refait le match sur RTL.
On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
Et avec Cindy Colmenares, Xavier Barret, Florent Baracco et Baptiste Durieux. Baptiste, alors la Ligue 2, c'est la troisième journée de Ligue 2. En ce moment, il y a pas mal de matchs qui ont commencé à 19h. Où est-ce qu'on en est ?
On approche de la mi-temps. Amiens est mené sur sa pelouse 2-1 face à Quevilly-Rouen. 0-0 entre Auxerre et Ajaccio. 0-0 également entre Dijon et Rodez. 1 partout entre Dunkerque et Niort. Match nul et vierge entre Grenoble et Guingamp pour l'instant. 1-0 pour le Paris FC sur la pelouse du Havre. 1-0 pour Toulouse, toujours face à Pau. Et 0-0 entre Valenciennes et l'ancien pensionnaire de Ligue 1, le Nîmes Olympique.
Et on rappelle que cet après-midi, Caen, qui jouait à domicile, a perdu contre Sochaux 2-1, et donc c'est la première défaite de la saison pour les joueurs de Normandie. On va continuer à se projeter sur cette saison de Ligue 1 qui commence ce week-end. On a parlé de Monaco, on a parlé de Lille, évidemment du Paris Saint-Germain. Donc là maintenant, on va parler des deux Olympiques qui sont sans doute les deux grosses équipes qu'on attend cette saison. On va commencer par l'OL qui a commencé difficilement cette saison. Ils ont fait match nul tout à l'heure à 17h au Groupama Stadium face à Brest. Ils ont même été menés, Slimani a égalisé. Pour la première fois depuis le début du XXe siècle, l'OL ne joue pas la Ligue des Champions pour la deuxième saison d'affilée. Au vu du départ de Depay et d'Amarcato un petit peu rikiki pour le moment, est-ce qu'il y a un risque de jamais 2 sans 3 ?
Moi je le pense, ouais. Je pense que cette équipe, elle est décimé, que Depay, c'était l'arbre qui cachait la forêt l'an dernier. On s'est un peu enthousiasmé en disant ah ben Depay porte l'OL, mais derrière Depay c'est quand même assez vide. Le recrutement il est rikiki en effet. Alors certes il y a un entraîneur, il y a un coach qui a une philosophie de jeu très offensive, donc il va faire un effectif, va tailler un effectif à sa main avec une tactique très offensive. Ça va peut-être être magnifique, mais moi je suis très inquiet pour l'Olympique Lyonnais.
Attention, parce que moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais le problème c'est que il réclame des joueurs aussi.
Un par ligne.
Et attention, pas des joueurs pour faire le nombre, des joueurs qui seraient potentiellement titulaires indiscutables. On sait déjà que Jean Lucas est parti à Monaco. Peter Bosz ne voulait pas que Jean Lucas parte, donc ça commence assez mal. Moi, j'aime beaucoup le côté un peu homme providentiel avec des idées, une philosophie, mais c'est pas gage de réussite forcément. Donc, je suis assez inquiet pour l'Olympique Lyonnais, sachant que voilà, il y a plein de points d'interrogation sur cette équipe. Vraiment, plein de points d'interrogation partout.
Moi, je suis plutôt très optimiste. Je me dis que bon, déjà avec ce qui s'est sombré aujourd'hui, je pense que ça va les réveiller au niveau du mercato.
Bah, ils ont pris comme, je crois, 11 ou 12 buts entre le match d'aujourd'hui et le match de préparation, si ça ne les réveille pas, ça.
Non, mais je pense sincèrement que là, d'une, ils vont recruter en plusieurs lignes, donc un défenseur central, gardien, enfin, ils vont avoir pas mal de recrutements. Dembélé, on a vu tout à l'heure, il a encore raté une occasion, il a encore manqué les cadres. Enfin, c'est un joueur dont je pense qu'ils vont peut-être réfléchir aussi à son départ. Et moi, je pense surtout que c'est une équipe où ils vont pouvoir peut-être être amenés à recruter avec un coach comme celui qu'ils sont aujourd'hui. Ça peut devenir très intéressant.
Oui, mais recruter avec quel argent? Parce que là,
les bonnes affaires, c'est rare.
Ils vont aussi dégraisser.
Ils veulent dégraisser, mais qui va avoir des joueurs?
Awar, ça fait 3 ans qu'il doit partir, il est toujours là. Bon, on est content pour lui.
Moi, je ne partage pas du tout l'optimisme de Cindy Colmenares, parce que Lyon, l'an dernier, n'était pas européen. Donc ils avaient tout le loisir de se consacrer au championnat pour revenir en Ligue des Champions, et ils n'ont pas réussi avec une équipe bien plus forte. Alors aujourd'hui,
on a eu des cas plus graves qui ont réussi à remonter.
Une équipe moins forte, avec un entraîneur nouveau qui a une philosophie de jeu avec visiblement
très intéressante.
Très intéressante, on est d'accord.
Mais est-ce qu'il a les joueurs?
Il n'a pas les joueurs pour.
Mais attendez,
je ne vois pas comment Lyon va réussir à faire mieux que la saison dernière.
Les mercato, c'est maintenant que ça se passe. Attendons un peu encore, voir est-ce qu'ils vont réussir à faire. Et on pourra en parler dans les semaines qui viennent.
Comment tu attires des joueurs niveau Ligue des Champions quand tu ne joues pas la Ligue des Champions? Si tu veux faire monter le niveau de Lyon, il faut jouer la Ligue des Champions, ils y sont pas. Donc les joueurs qu'ils vont attirer, c'est des joueurs niveau Ligue Europa. Ça les fera pas progresser.
C'est pas pour rien qu'ils ont pris comme entraîneur l'homme qui les avait d'ailleurs éliminés en demi-finale de la Ligue Europa en 2017 avec l'Ajax d'Amsterdam. Mais faut être réaliste, est-ce que l'OL aujourd'hui, ça veut pas dire Olympique low cost finalement? Est-ce que non mais c'est vrai.
Moi après
ça fait longtemps qu'il n'a pas tweeté, ça me manque.
La petite lumière au bout du tunnel, c'est que on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes du centre de formation. Ça, c'est un truc sur lequel l'OL doit absolument miser. On va parler de deux en particulier, Maxence Caqueré et Ryan Cherki, qui fatalement devraient avoir plus de temps de jeu cette saison. Et c'est pas eux qui doivent porter l'Olympique Lyonnais, puisque Ryan Cherki, il a à peine 18 ans. Mais de toute façon, Xavier a totalement raison. S'il y a des recrues, ce sera du second marché, et donc il va falloir avoir des très très bonnes idées. Ça va être des joueurs assez peu convoités, sur lesquels il y aura forcément une prise de risque. Donc moi, je suis d'accord avec Xavier, et je suis vraiment, et je le répète, très inquiet pour l'Olympique Lyonnais.
Surtout que la philosophie du jeu de l'entraîneur va mettre du temps à se mettre en place. Et est-ce que Olas et Juninho si les résultats sont pas bons, si en octobre ils sont 13, 14e à 10 points de la Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont pas dire à Peter, bon, t'es gentil, ton jeu offensif il est magnifique, mais au moins avec Rudy Garcia on était dans le top 5 à mi-saison, quoi. D'ailleurs, on a vu que Jean-Michel Aulas a commencé cette semaine à mettre un petit peu la pression sur Juninho, doucement,
mais sûrement.
C'est jamais très, très, très bon.
Mais c'est justement ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours Jean-Michel Aulas qui est derrière. Comment vous pouvez douter? Non. Enfin, il est toujours.
Je pense que c'est devenu le point faible de l'OL.
Non, c'est clairement ce qui fait que la barque, elle tient encore.
Alors, ça dépend où on se place, parce que c'est ça qui me gêne avec Lyon, c'est que c'est un club magnifique, qui a un palmarès, qui a un stade fantastique, qui a un centre d'entraînement tout aussi merveilleux, je vais en reparler, mais qui a vraiment une très bonne structure au sein de son club. Mais il y a un décalage entre tout cet aspect-là, presque administratif, et ce qui se passe sur la pelouse. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a en fait aucune cohérence, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est ça qui me pose problème. Tout est très bien géré d'un point de vue administratif par Jean-Michel Aulas. Mais sur le terrain, ça fait, comme tu l'as dit Florent, ça fait 2-3 ans que c'est très compliqué.
Il n'a plus l'âge de mettre son short et ses crampons, Jean-Michel Aulas.
Il ne l'a jamais vraiment eu.
Oui, non, mais il ne peut pas tout faire. Donc il y a un moment où il délègue à des personnes, des techniciens. Est-ce qu'il se trompe? Alors là, oui, on peut en discuter. Mais compte tenu des moyens mis à la disposition de ces techniciens, est-ce que c'est vraiment en dessous de ce qu'on attend ou pas? On peut effectivement, la saison dernière, clairement, c'était un échec. D'ailleurs, Rudy Garcia n'a pas été maintenu. Avant, il y avait quand même eu le brouillon Silvinho. Donc, il y a quand même ces dernières années, effectivement, un manque de continuité dans le choix des techniciens. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est quand même la politique des jeunes. Parce que si on se souvient bien, quand Lyon est en difficulté financière, il y a quoi, 6 ans maintenant, et donc il joue à fond la carte avec Genesio, la carte des jeunes.
Tout à fait, ça marche.
Mmh. Et quand on a un centre de formation comme Lyon, qui produit tellement de joueurs que d'ailleurs ils peuvent pas tous les retenir, eh bien je comprends pas effectivement qu'ils se soient lancés dans ces recrutements de Sud-Américains avec des Jean Lucas qui s'intègrent pas ou d'autres qui vont jouer les JO comme Bruno Guimaraes, etc. Et donc ça crée des problèmes alors qu'ils ont tous ces jeunes sur place. Je pense qu'il faut effectivement.
Parce que c'est le carnet d'adresse de Juninho et qu'on a décidé que c'était Juninho qui tranchait et qui décidait.
Ouais. Enfin, il a juste le bottin brésilien, apparemment, Juninho.
Ah bah, juste ça, oui.
Mais les jeunes, on a vu avec le petit Goury qui est parti à Nice et puis Barre aussi, et qui est un grand espoir.
Qui vient de partir à Nice.
Qui est parti également.
C'est incroyable. Oui,
c'est terrible.
Également à Nice. Et on peut dire peut-être un petit mot rapide avant de parler de l'OM de Nice, parce que finalement, ça va être aussi une grosse attraction cette année. C'est une équipe qui a vraiment, pour le coup, des moyens financiers avec Ineos, qui a recruté Christophe Galtier. Il a choisi Nice plutôt que Lyon. Ça aussi, ça veut dire peut-être quelque chose. Comment vous voyez cette saison de l'OGC Nice?
Moi, perso, j'en attends beaucoup. Pour moi, ce sera l'équipe à suivre dans ce championnat, parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc ils vont pouvoir se concentrer sur la Ligue 1 avec un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1.
Effectivement.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est que parfois, on lance des projets en France avec un entraîneur qui ne connaît pas la Ligue 1, donc ça foire. Là, lui, il connaît parfaitement la Ligue 1, il l'a gagné, il est champion sortant, et il a en plus, c'est vrai, des joueurs vraiment intéressants, mixtes de jeunes talentueux, de joueurs d'expérience. Moi, j'attends beaucoup de cette équipe niçoise. D'ailleurs, ils vont avoir très vite un choc contre l'OM, je crois, qui va être intéressant, puisque ça va être un choc, pour moi, des prétendants derrière le duo PSG-Monaco.
Il commence, je crois, demain soir à domicile contre Reims, si je ne m'abuse, mon cher Baptiste, vous les vérifiez.
Tout de suite.
J'aime pas dire de bêtises.
Exactement. Nice-Reims, intéressant. Après, on a Lille contre Nice, ancien club de Christophe Galtier, et puis Nice-Marseille le 22 août.
Ah, gros début de saison pour étalonner le club. Marseille, bah justement, on va en parler. C'est le dernier gros, si je puis dire, sans faire offense aux autres, dont on n'a pas encore parlé. Cet Olympique de Marseille, lui, a par contre recruté à tour de bras, hein, déjà 34 millions d'achats hors bonus et une flopée de nouveaux noms. Gerson, Guendouzi, Luan Perez, Saliba, De La Fuente, en gros une grosse dizaine de joueurs et quelques survivants quand même, comme Mandanda et Payet, qui n'ont pas dû reconnaître l'équipe quand ils sont rentrés de vacances. Comment vous le sentez, vous, ce reboot de l'OM?
Moi, je trouve ça très intéressant, surtout avec le coach. C'est surtout le coach qui va amener beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça va arriver sur le podium? Est-ce que ça va faire un titre, des trophées, une Coupe de France? Je ne sais pas, mais l'OM, le défi de l'OM, ça va être de se réconcilier avec ses supporters et de proposer d'autres choses. Les supporters vont revenir au stade. Ils vont voir une équipe.
Ils sont déjà revenus. On a vu contre Villarreal le match amical qui était absolument incroyable au niveau de l'ambiance.
Avec une philosophie de jeu. Un entraîneur qui a un charisme, on va peut-être retrouver un peu l'esprit Bielsa. Alors,
sans la glacière.
Voilà. Mais moi, je trouve ça excitant. Et les Marseillais, s'ils arrivent à accrocher une Coupe d'Europe, même si c'est une Ligue Europa, ils seront très contents parce qu'ils auront vécu quelque chose. Or, Marseille, depuis 3-4 ans, ils ne vivaient rien. C'est-à-dire que c'était devenu un club froid, il ne se passait plus grand-chose.
Un club PowerPoint, quoi.
Et même la deuxième place de Villas-Boas.
Non, mais c'est vrai, parce que, par exemple, poser la question, est-ce que les Marseillais préfèrent, les supporters marseillais, vous leur posez la question, est-ce qu'ils préfèrent Didier Deschamps ou Marcelo Bielsa? Avec Deschamps, ils ont été champions, avec Bielsa, pas du tout. Et pourtant, le souvenir qu'a laissé Bielsa est exceptionnel. Donc moi, j'ai même pas envie de parler de titres, mais juste d'expérience quand on va au stade. Ce mercato est très intéressant, hyper excitant, comme tu l'as dit. Néanmoins,
hyper risqué aussi. Hein.
Hyper risqué, parce qu'il n'y a strictement aucune certitude. C'est-à-dire que sur le papier, ce sont des bonnes idées, parce qu'on parlait des finances de Lyon. Je pense qu'à Marseille, c'est encore pire. Donc il n'y a pas 36 solutions. Là, l'effectif a été très largement renouvelé. Il y a 9 recrues pour l'instant qui ont été officiellement, avec que des joueurs extrêmement excitants, comme je l'ai dit. Donc c'est des belles promesses, mais là, pour le coup, il faut vraiment laisser du temps. Et moi, j'attends de voir ce que ça va donner concrètement.
Alors, du temps et Olympique de Marseille, c'est marrant, c'est deux notions que j'ai du mal à voir.
Il y a deux éléments qu'a pas évoqué Baptiste Durieux. C'est d'abord que s'il y a eu ce recrutement important, c'est parce qu'il y avait 11 joueurs en fin de contrat. Donc évidemment, dont Thauvin, dont Valère Germain, qui n'ont pas été renouvelés, qui n'ont pas été gardés.
Bien sûr.
Donc du coup, bah, y avait de la place et de la masse salariale pour recruter de nouveaux joueurs. Comme ils sont allés recruter des joueurs, effectivement, beaucoup en Amérique latine, bah, forcément, les tarifs sont moins chers. Donc ça a permis de recruter plus de joueurs. Donc est-ce qu'ils sont tous bons? Probablement pas, mais sur le lot, on a vu que déjà, il y en a quelques-uns qui devraient faire leur place. Et ensuite, l'entraîneur argentin, il part pas de zéro là. Il a déjà 6 mois de pratique dans ce club.
Il arrive lancé,
donc,
quoi.
Voilà, donc il a déjà des repères, il a déjà. Il connaît un peu la Ligue 1, il sait comment ça fonctionne, il a ses certitudes. Donc moi je pense que cet OM là sera avec Monaco le challenger principal du PSG.
Les certitudes de Sampaoli sur Marseille là aujourd'hui?
Sur Marseille, mais c'est cet enthousiasme, cette énergie qu'il transmet avec cette équipe. Elle va emballer tout le monde dans ce mouvement. Il a les supporters derrière lui, on l'a vu déjà lors du match amical. Je pense qu'on va revivre ce qu'on a connu avec Bielsa. Bah, d'ailleurs, c'est un apôtre de Bielsa, donc les supporters attendent ça.
On souhaite que ça se finisse un petit peu mieux, parce que la problématique aussi de Sampaoli, c'est que c'est un jeu extrêmement exigeant, avec beaucoup d'énergie, de pressing, etc. Et Marseille, quand même, cette année, joue le championnat, il joue la Ligue Europa, et ils vont jouer la Coupe de France. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'exploser en plein vol, comme ça s'était passé finalement, malheureusement, pour les Marseillais avec Bielsa, où ça avait calé à la fin, quoi?
Ça calait en général aux deux tiers, trois quarts de la saison. Ouais. Donc, on verra. Mais ce qui est certain, c'est que déjà la Coupe de France, elle commence qu'en janvier pour eux. Donc, mais ils ont la Ligue Europa cet automne. Je pense que ça dépendra beaucoup du tirage au sort. S'ils ont une poule facile, ils vont la jouer pour continuer l'aventure. S'ils ont une poule compliquée, je pense que la priorité, ce sera la Ligue 1. Parce que
la poule, les adversaires potentiels, ça ne change rien. On a vu là en Ligue Europa cette saison, où les saisons précédentes, c'était humiliation sur humiliation avec des adversaires qui étaient sur le papier nettement moins fort. La question est de savoir.
Mais il n'avait pas. En fait, je vous entends depuis un petit moment.
Mais c'est sympa de nous écouter, Cindy.
Il n'y a pas que ça, en fait. C'est que Marseille, avant, n'avait pas une équipe. Il y avait Sampaoli qui essayait de mettre en place ses idées, mais il n'y avait personne derrière qui suivait. Sampaoli va quand même réussir à mettre ses jeux qui est très fausse offensif. La passion, il a effectivement ce charisme qui fait que les joueurs vont suivre. Et maintenant, surtout, Longoria a réussi les mercato, donc pour l'instant. Donc, très très bien entamé, et il y a une vraie équipe maintenant à Marseille, donc je pense qu'ils vont donner des très très belles surprises et que Marseille a aujourd'hui ce qui lui manquait, en fait.
Il n'y a pas d'équipe pour l'instant, parce qu'ils ont jamais joué ensemble quasiment.
Non, enfin, ça vient, mais ils sont déjà les mercato. Quand je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'équipe, c'est qu'il n'y en avait vraiment pas les joueurs. C'est pas une question des contacts, s'ils savent jouer entre eux, etc. C'est qu'ils en manquaient.
Ah oui, tu veux dire en termes d'effectifs.
En termes d'effectifs.
En tout cas, Sampaoli, il a l'équipe qu'il voulait absolument. Ça, il vaut mieux pas qu'il se fasse virer, parce que c'est tous ses joueurs.
Il y a à Marseille, ce qu'il n'y a pas à Lyon. Voilà. L'entraîneur, il a les joueurs qu'il estimait avoir besoin, que Peter Bosch n'a pas. Parce qu'à Marseille, il y avait plein de joueurs en fin de contrat, et donc ils ont renouvelé l'effectif, ce qui n'est pas possible à Lyon.
Et ce sera peut-être la saison de Milic aussi, enfin, le grand attaquant qu'on devrait revoir pas avant un mois et demi normalement. Ouais, ils espèrent l'avoir pour le match contre Nice dont vous parliez tout à l'heure, mon cher Baptiste.
Et bien, dans tout ça, je pense qu'ils vont finir par s'en passer, parce que là
ils s'en passent déjà depuis quelques mois.
Non, mais c'est triste, pour moi c'est une déception, parce que c'est vrai qu'on attendait un peu plus de ces joueurs des Boca Juniors, et finalement ça a été une déception.
Un joueur qui vient de Boca Juniors en Europe à 28 ans, c'est que
après ça te fait les croisés.
C'est que il n'était pas extraordinaire, sinon il y aurait d'autres clubs qui l'auraient pris plus tôt.
Je comprends pas cette vision, parce que pour moi un joueur sud-américain qui vient en Europe, c'est déjà un très bon joueur, parce que généralement c'est difficile pour eux, sinon ils vont en MLS. Donc cette logique pour moi elle est
C'est votre carrière qui parle.
C'est la logique qu'on a en Amérique du Sud. Mais
il y a une liste de pépites d'Amérique du Sud qui sont arrivées en Europe, et c'était une catastrophe quand même.
Il y en a certaines qui ont fait juste un court passage.
Parfois, c'est pas des pépites, c'est de la pyrite.
Mais il y en a des très bonnes comme Messi, on en a parlé au début, c'est une pépite.
Et l'OM qui se déplace donc à Montpellier demain soir à 21h en match de clôture de cette première journée de Ligue 1. Il nous reste vraiment quelques petites minutes. Allez, je vais vous poser une petite question. On va voir si vos intuitions seront éclairées. Tout ce qui va être dit maintenant sera enregistré et peut-être diffusé en fin de saison, faites gaffe. Pour vous, qui va être l'équipe surprise de Ligue 1 cette saison? Allez, vous me donnez un nom et une raison, vite fait.
Moi, je vous l'ai dit, ce sera Nice.
D'accord, Nice.
Voilà, Nice.
Nice ou Rennes? Nice ou Rennes. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du Rennes de Bruno Genesio, Cindy.
Ah, mais il faut que ce soit une surprise. Si je dis l'OM, c'est pas forcément une surprise. L'OL.
L'OL. Ah voilà, vous défendez votre L. Et vous, Baptiste?
L'Estac de Laurent Batless.
Ah,
champion de Ligue 2.
Qu'on va voir ce soir contre le Paris Saint-Germain. L'équipe que vous ne sentez pas du tout, mais pas du tout, cette saison?
Moi, Angers. Angers, parce que...
Angers en danger ?
Ouais, Angers en danger. L'entraîneur qui faisait ce club depuis plus de 10 ans maintenant est parti. Il est parti à Caen. Derrière lui, il y a aussi pas mal de soucis au club. Je pense que ça peut être très très compliqué cette année pour le SCO d'Angers.
Florent ? Moi, je dirais Nantes, parce que ça fait de nombreuses saisons qu'ils flirtent avec la relégation et que quand on flirte, on finit toujours par conclure.
Ah ouais ? Non, pas vraiment.
Pas toujours, pas
en tout cas,
monde,
moi. Hein. Enfin, bon, en plongeant dans mes jeunes années, pas vraiment. Cindy,
moi, je vais rester fidèle à ce que j'ai dit, les LOSC. Je pense que c'était trop beau, trop clinquant. Et puis, finalement, on va avoir peut-être les retours du bateau.
Et vous, Baptiste ?
Les Girondins de Bordeaux.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Qui est aussi un nouvel entraîneur, le sélectionneur suisse qui nous a fait du mal, Petkovic. Mmh. Vous ne les sentez pas du tout ?
Pas trop. Il y a trop de changements là, à tous les étages, ça fait peur, même si la stratégie de Gérard Lopez est assumée, de faire du trading, je les sens pas les Bordelais, pas du tout.
Très bien, bah, écoutez, on verra, tout ça a été enregistré, on rediffuse un peut-être.
Hein.
Exactement, dans un instant, Eric Silvestro, Giovanni Castaldi et Baptiste Derieux, encore vous, mais dites donc, la pige elle est optimiste.
Non, elle est toujours la même.
RTL Foot avec à 21h, vous suivrez évidemment 3 PSG, passez une bonne soirée sur RTL, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois à 18h30, on retrouve notre heure habituelle. Et puis bravo, hein, on l'a pas dit, à nos handballeurs, à nos volleyeurs champions olympiques. Merci à leurs clubs respectifs de les avoir libérés, eux, pour leur offrir et nous offrir le bonheur d'une médaille d'or. À bon entendeur, salut.